Chapitre 33. Le taxi descendit l'avenue Montaigne et déposa Nicky et Sébastien à hauteur du pont de l'Alma. La nuit était tombée, mais il faisait encore chaud. Après Barbès et la gare du Nord, Sébastien éprouva un vrai soulagement en retrouvant un Paris plus rassurant, celui familier des bords de Seine et de la tour Eiffel illuminée. À pied, ils rejoignirent les berges de la rive droite qui filaient vers le pont des Invalides. Abrité par de hauts marronniers, le port de la Conférence était le repère des navettes fluviales de la Compagnie des croisières parisiennes. Les premières embarcations qu'ils croisèrent sur leur chemin régurgitaient des grappes de touristes vers les rangées de bus des tours opérateurs. Ils les dépassèrent rapidement pour rejoindre le quai réservé aux bateaux-restaurants. « Je crois que c'est là !» lança Nicky en pointant du doigt un grand navire de verre à double pont. Ils se présentèrent à l'embarcadère de l'amiral où ils donnèrent leur nom à une hôtesse qui leur souhaita la bienvenue et leur remit un dépliant cartonné. « Le départ est imminent, » précisa-t-elle en les escortant jusqu'à leur table. Bardé de grandes baies vitrées latérales, le pont intérieur accueillait une petite centaine de tables dans une atmosphère romantique. Lumière tamisée, plafond scintillant, parquet sombre, photophores à flammes vacillantes glissées entre les couverts, tout avait été pensé pour créer une ambiance intimiste, jusqu'à la disposition des chaises qui obligeaient les couples à s'asseoir côte à côte. Une fois installés en bordure de la verrière, Nicky et Sébastien furent un moment troublés par cette proximité. Sébastien baissa les yeux, parcourant le menu qui promettait une cuisine inventive aux saveurs subtiles, brillamment composées par notre chef avec les produits les plus frais. « Tu parles !»« Bienvenue, madame, monsieur !» les salua une serveuse arborant une volumineuse coiffure afro entortillée dans un foulard. Elle déboucha la bouteille de clairette de Die, posée dans le seau rempli de glace, et leur servit deux coupes avant de proposer de prendre leur commande. Sébastien survola la carte avec condescendance. Cette situation devenait totalement ridicule. Par politesse, Nicky fit l'effort de consulter le menu et choisit pour deux. La serveuse entra leur commande sur son terminal électronique et leur souhaita une bonne soirée. Le bateau était plein. Beaucoup d'Américains, d'Asiatiques et de Français venus de province. Certains fêtaient visiblement leur lune de miel. D'autres, leur anniversaire de mariage, heureux d'être là. Devant eux, un couple de Boston et leurs deux enfants échangeaient des plaisanteries sur un ton complice. Derrière, un couple de Japonais se chuchotait des mots d'amour à l'oreille. « Je meurs de soif !» souffla Nicky en descendant d'un trait sa coupe de vin pétillant. Elle se resservit dans la foulée. « Ce n'est pas du champagne, mais c'est agréable. » Soudain, le moteur tourna plus vite, faisant vrombir les propulseurs. Une légère odeur de fioul monta du fleuve et le bateau quitta le pont de l'Alma, une nuée d'oiseaux blancs dans son sillage. Nicky colla son visage contre la paroi de verre. En ce début de soirée, les embarcations étaient nombreuses sur la Seine. Barges de fret, voguant au ras de l'eau, vedettes rapides, zodiaques de la brigade fluviale ou des pompiers. Devant les jardins du Trocadéro, le bateau dépassa un petit port dont les berges étaient protégées par des platanes et des peupliers. Certains plaisanciers qui dînaient sur le pont de leur péniche levèrent leurs verres en direction des passagers des bateaux-mouches qui, pour la plupart, rendirent un signe amical. « Madame, monsieur, voici votre entrée, un foie gras landais et sa confiture de figues de Provence. » D'abord dédaigneux, Sébastien engloutit le foie gras en quelques bouchées. Il n'avait rien avalé depuis l'infâme poisson cru mariné acheté la veille devant le lycée de Jérémie. Nicky ne fut pas en reste. Le pain grillé avait beau être froid et la portion de salade minuscule, elle dévora les toasts à pleines dents pour apaiser les gargouillis de son estomac et vida son verre de Bordeaux. « Ne bois pas trop tout de même, » s'inquiéta-t-il en constatant qu'elle entamait son quatrième verre de la soirée. « Toujours aussi rabat-joie à ce que je vois. Oserais-je te rappeler qu'on est à la recherche de notre fils et qu'on a une énigme à résoudre ?» Nicky leva les yeux au ciel, mais sortit malgré tout de son sac la clé qu'ils avaient récupérée dans la consigne. Ils la scrutèrent sous toutes les coutures. Elle n'avait rien de remarquable. L'inscription « Abus Security » était gravée sur l'anneau. C'était le seul et maigre indice dont il disposait. Sébastien poussa un long soupir. Ces jeux de piste le fatiguaient. En le maintenant sous pression, ces énigmes l'empêchaient de se poser et de prendre du recul. En quelques heures, il avait sombré dans la paranoïa. Il dévisageait chaque serveur, chaque passager comme un kidnappeur potentiel et tout lui paraissait suspect. « Je vais faire une recherche », décida Nicky en sortant son téléphone. Si on avait volé le portable de Sébastien, Son ex-femme avait toujours le sien. Elle lança le navigateur Internet et tapa « Abus Security » dans Google. Les premières pages renvoyèrent toutes au même site Internet. Abus était une marque allemande spécialisée dans la sécurité, produisant notamment des cadenas, des antivols, des serrures et des systèmes de vidéosurveillance. Mais quel rapport entre cette clé et cette croisière sur la Seine ? Souriez pour la photo. Smile for the camera. Lächeln für die Kamera. Armé de son appareil, le photographe officiel de la compagnie passait de table en table, immortalisant les couples de toute nationalité. Sébastien refusa bien sûr de se laisser prendre, mais le paparazzi polyglotte insistait. You make such a beautiful couple. Il soupira et, pour ne pas faire de scandale, accepta de poser à côté de son ex-femme, esquissant un sourire crispé. Cheese, demanda le photographe. Va te faire foutre, pensa très fort Sébastien. Thank you, be back soon, promit-il alors que la serveuse débarrassait les assiettes. Les colonnades métalliques du métro aérien de Bir Hakeim se détachaient dans la nuit. Sur le bateau, l'ambiance se réchauffait doucement. Un immense comptoir de bois courait au centre du pont inférieur, entourant une piste surélevée sur laquelle un violoniste, un pianiste et un clone de Michael Bublé reprenaient quelques standards. Les feuilles mortes, Fly Me to the Moon, Mon amant de Saint-Jean, The Good Life. Les touristes fredonnaient gentiment tandis que l'amiral abordait à présent les rives de l'île aux cygnes. Encastré dans chaque table, un écran faisait office de vidéoguide, délivrant des informations et des anecdotes sur chaque monument devant lequel passait le bateau. Nicky régla le sous-titrage pour disposer de la version anglaise. À la proue de l'île aux cygnes se dresse la célèbre réplique de la statue de la liberté new-yorkaise. Quatre fois plus petite que sa cousine, la statue regarde vers les États-Unis et symbolise l'amitié franco-américaine. Arrivé au bout de l'île artificielle, le bateau s'immobilisa quelques minutes, permettant aux passagers de mitrailler le point de vue avant de faire demi-tour et de repartir le long de la rive gauche. Sébastien se servit un verre de vin. « Ce n'est pas un gruau la rose, mais il est bon quand même », concéda-t-il à Nicky. Elle lui sourit, amusée. Malgré lui, il se laissait peu à peu gagner par l'ambiance bon enfant et la beauté du paysage. Le bateau longea doucement le port de Suffren et celui de la Bourdonnais. Ensemble, ils dessinaient deux arcs, créant une large anse qui avançait sur l'eau. Les manèges et un espace de promenade s'étendaient jusqu'au pied de la tour Eiffel. Même les plus blasés comme lui ne pouvaient s'empêcher de trouver l'endroit féerique. La nourriture était médiocre, le crooner insupportable, mais la magie de Paris agissait, plus forte que tout. Il reprit une gorgée de Bordeaux en regardant la famille bostonienne dont la table précédait la leur. C'était un couple d'à peu près leur âge, entre 40 et 45 ans. Leurs deux enfants, d'une quinzaine d'années, lui rappelaient Camille et Jérémy. En laissant traîner l'oreille, Sébastien comprit que le père était médecin et que la mère enseignait la musique dans un conservatoire. Ils offraient tous les quatre l'image d'une famille unie. Embrassades, tapes sur l'épaule, plaisanteries qui fusent, émerveillement partagé devant les monuments. « Ça aurait pu être nous », pensa Sébastien avec tristesse. Pourquoi certains parviennent-ils à trouver cette sérénité alors que d'autres s'engluent dans les conflits ? Le comportement et le caractère de Nicky était-il seul responsable de l'échec de leur famille, ou lui-même n'avait-il pas sa part dans ce naufrage ? Nicky croisa le regard brillant de son ex-mari et devina à quoi il songeait. « Ça ne te fait quand même pas penser à nous ? À une version de nous qui n'aurait pas divorcé ?» Nicky précisa comme si elle réfléchissait à voix haute. « Ce ne sont pas nos différences qui ont posé problème, c'est la façon dont nous les avons gérées. Notre incapacité à nous entendre sur l'éducation des enfants, ton refus que nous prenions ensemble les décisions concernant leur avenir, cette haine que tu as développée contre moi... Attends, ne renverse pas les rôles, s'il te plaît. Tu veux que je te rappelle ce qui a précipité notre séparation ? » Elle le regarda, sidérée qu'il remette cette histoire sur le tapis, mais il poursuivit, de la hargne dans la voix. « Tu as oublié d'aller chercher les enfants à l'école parce que tu étais en train de te faire sauter par ton amant à l'autre bout de Brooklyn !» « Arrête avec ça !» ordonna-t-elle. « Non, je n'arrêterai pas » cria-t-il. « Parce que c'est la vérité !» Ne te voyant pas arriver, Camille et Jérémy ont décidé de rentrer à pied à la maison et tu te souviens de ce qui s'est passé ensuite. « T'es vraiment déloyal !» 2 jours de coma pour Camille qui s'est fait renverser par un taxi !» Emporté par son élan, Sébastien ne s'arrêtait plus. Et lorsque tu m'as rejoint à l'hôpital, tu puais l'alcool. C'est un miracle que Camille s'en soit sortie sans séquelles. Par ta faute, elle est passée à deux doigts de la mort, et ça, je ne te le pardonnerai jamais. Nikki se leva brusquement. Il fallait mettre un terme à cette conversation, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter. Encore sous le coup de la colère, Sébastien n'esquissa pas le moindre geste pour la retenir. Il la regarda quitter la table et prendre l'escalier pour s'éclipser vers le pont supérieur.